l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 minutes à Bukavu, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue pour suivre ce radio journal. Le fil de l'information en trois titres. Les affrontements ont été signalés hier jeudi matin à Kalingi, dans le secteur d'Itomboué, groupement de Basimukinji 1 en territoire de Mwenga. Vous l'entendrez dans ce radio-journal, trouver des solutions au conflit dans les affaires foncières au sud Kivu, surtout à la circonscription foncière de Bukavu 1, c'est entre autres objets de la mission d'une délégation du ministère des Affaires foncières et du secrétariat général aux affaires foncières. Conduite par le secrétaire général aux affaires foncières, cette délégation a présenté son plan de sortie des crises qui consiste à nommer les non-originaires au poste de conservateur des titres immobiliers. Dans la page magazine, 25 boursiers congolais ont obtenu leur diplôme de fin d'études à l'Académie internationale de management Excellentia à Arena en France. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialo.
Nous sommes aujourd'hui vendredi 29 novembre 2024. Ce journal part de Kinshasa. La haute cour militaire siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo a pris en délibéré l'affaire opposant le ministère public à 25 personnes, dont Corneille Nangam, ancien président de la commission électorale nationale indépendante CENI, poursuivi au second degré pour crimes de guerre, homicide involontaire, torture et destruction des biens commis par des subordonnés placés sous son autorité. Après les plaidoiries de la défense des différents prévenus, la haute cour militaire a clos le débat et a pris l'affaire en délibéré pour rendre son verdict dans le délai légal. Lors de la précédente audience, le ministère public avait requis la reconduction de la peine capitale par la haute cour militaire contre les 25 prévenus. Corneille Nanga ainsi que 24 autres prévenus ont été condamnés au premier degré à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et crime des guerres. Et au sud Kivu, comme entendu au sommaire, les affrontements ont été signalés hier jeudi matin à Kalingi dans le secteur d'Itomboué, groupement de Basimukinji 1 en territoire de Mwengan. Ces combats ont opposé une bonne partie de la journée les forces armées de la RDC-FARDC au Tulaneo du colonel déserteur Makanika. Difficile d'établir pour l'instant le bilan de ces affrontements. Et à Bukavu, certains conducteurs des véhicules de transport en commun dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains policiers de la circulation routière commis au niveau du Cap Ngouba sur la route allant à la frontière aux Iziprénines. Dans une interview accordée à Radio Mandeléo, ces conducteurs indiquent que ces éléments ont abandonné le travail des régulations pour se constituer en agents rançonneurs en imposant 1000 francs à chaque chauffeur qui veut aller vers la frontière aux Iziprénines. Explication, ma peine. De Linda.
Tout chauffeur qui tente de traverser sans donner cette somme de 1000 francs est surveillé de près, puis arrêté à son retour, les soumettant à une amende, explique notre source. L'un des conducteurs des taxis dans la ville de Bukavu, Grace Lubala, indique que les compatriotes qui viennent du pays voisin sont obligés de faire les pieds avant d'atteindre Cap Ngouba avec leur cargaison. Grace Lubala en parle dans cet élément.
Ils avaient commencé par interdire les bus. Par la suite, c'était nous les taximens. À ce jour, si vous leur donnez seulement 1000 francs congolais, vous traversez jusqu'à la frontière. Chaque traversée est monnayée. On paie 1000 francs congolais pour traverser. Et puis encore, on paie les 500 francs congolais de la taxe sur stationnement au parking public. Et d'ailleurs, des parkings que nous n'avons pas.
En réaction, une source proche du commandement de la police nationale congolaise indique que les policiers de roulage visibles à cet endroit y sont affectés sur ordre de la mairie qui avait constaté que la présence des taxis, voitures et bus vers la frontière aux Iziprémiers était la source d'embouteillage et de désordre. Il était donc nécessaire d'arrêter toutes ces voitures des transports en commun au niveau du Cap Ngouba. Du côté des chauffeurs, c'est plutôt des monnayages de la traversée qui pose problème ainsi que le trafic d'influence.
et l'impraticabilité des routes des dessertes agricoles dans la province du Sud-Kivu et l'enclavement de plusieurs coins par rapport aux grands centres urbains et de consommation sont des grands facteurs qui freinent l'émergence de la femme rurale. Ces femmes qui vivent essentiellement de la culture sont obligées de vivre dans un environnement qui restreint leur accès aux champs et qui ne facilite pas l'écoulement aisé des produits agricoles, ce qui provoque parfois un relâchement et la tendance pour les paysans à demeurer dépendants des aides ou de la bonté des hommes politiques. Explication, Hélène Boudjiriri.
Des rapports des organisations de la société civile font état du délabrement très avancé des routes qui servent d'accès aux champs pour les populations rurales et d'autres reliant plusieurs villages en plus des ponts jetés sur plusieurs rivières qui présentent des dangers d'écroulement. Il en est de même des routes principales ou classées comme nationales, de sorte qu'actuellement devenu un rêve irréalisable de croire relier Bukavu au grand centre de consommation comme Nyabibwe et aussi Minova ou encore Bulambika dans les territoires de Kalehe, Mwenga Centre, Kamituga et Kitutu dans les territoires de Mwenga, Makobola, Baraka et Misisi dans les territoires d'Uvira et Fizi, et pire encore, des territoires de Shabunda. Pourtant, en vocation agricole essentiellement, les habitants, particulièrement les femmes, semblent ne plus avoir aucun intérêt à pratiquer une agriculture intensive, se limitant seulement à des petites activités pour la survie. Suite à l'impraticabilité des routes, les véhicules ont du mal à accéder à leur village pour récupérer les marchandises et ou les permettre d'atteindre d'autres milieux pour soit vendre leurs marchandises et en acheter d'autres inexistantes dans leur milieu. Les quelques femmes qui arrivent à pratiquer une agriculture intensive sont celles qui vivent aux alentours des grands centres urbains et des consommations, mais là aussi les problèmes restent entièrement posés. En effet, des dizaines d'entre elles passent des journées entières transportant leurs produits sur des routes complètement délabrées afin de parvenir à écouler les peu dont elles disposent. Profitant de ces jours d'activisme contre les violences faites à la femme et la jeune fille, plusieurs activistes estiment qu'un plaidoyer commun et fort devrait être porté par les organisations et défenseurs des droits des femmes afin d'ouvrir les femmes rurales à plus d'opportunités et la réhabilitation des routes reste l'un des facteurs prioritaires en plus de la restauration de la sécurité sur l'ensemble de la province. Précisons que la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et la jeune fille a débuté le 25 novembre 2024, un moment fort pour renforcer l'unité, la solidarité et la détermination pour les changements.
Et plusieurs projets d'infrastructure sont orientés au sud qui vous donnent notamment le projet de la route nationale numéro 5 allant de Bukavu jusqu'à Mbujimayi et la route nationale numéro 2 qui passe par Walungu et Mwenga. Au-delà de ces routes, grâce au financement des bailleurs extérieurs dont la Banque africaine de développement BAD, la RN2 et ses bretelles sont en pleine réhabilitation et plusieurs tronçons dans la ville de Bukavu ainsi que l'aéroport de Kavumu en territoire de Kabari. Ainsi rapporte le Bloc uni pour le développement BUDEC dans une déclaration d'opposition aux manœuvres visant l'éviction du ministre Alexis Guissaro du ministère national des infrastructures et travaux publics. Biamungo Casimir, un des militants du BUDEC, considère ces initiatives de déstabilisation comme un frein au développement de la province du Sud Kivu, qui bénéficie d'un nombre suffisant des projets d'infrastructures en cours ou à venir grâce au ministre Guissaro. On l'écoute.
Il vous souviendra que depuis l'avènement à ce ministère, l'excellence Alexis Guissaro Mouvoni s'est fortement impliqué dans le désenclavement du pays à travers la construction et ou l'entretien des routes d'intérêt national, provincial et même celles des dessertes agricoles, et cela en dépit du caractère dérisoire du budget alloué à son ministère, à savoir 4,19% seulement en 2024.
Essayez de préciser que le ministre Alexis Guissaro est visé par une motion de défiance signée par une cinquantaine des députés de l'Union sacrée de la Nation. Et le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha Sunoyo du territoire de Calais dénonce ce qu'il qualifie de détournement des fonds publics destinés à la construction de l'école primaire à Roba située dans le village Chibanjam, groupement Binga Sud, chefferie Bouavu. Cette structure le fait savoir dans une lettre adressée au gouverneur de province avec copie à la rédaction de Radio Mandeleo. Détail, Alain Kabika.
Dans cette correspondance, La Lucha Kalehi rappelle que c'est depuis 2022 que le gouvernement congolais, à travers les comités provinciaux de suivi des activités minières CPS Sud Kivu, avait signé un contrat avec l'organisation Action de solidarité en appui au développement endogène ASA de Icebel pour ses travaux. Cette structure ajoute que cette organisation, représentée par Mapendano Wiganda Désiré, avait pour mission d'exécuter les travaux de construction de l'école primaire Roba et la livraison de l'ouvrage était prévue au mois de mars 2024. À l'occasion d'une descente effectuée sur les sites, la Lucha Kalehi dit avoir constaté que les travaux sont restés inachevés jusqu'à ce jour, alors que les fonds avaient déjà été libérés jusqu'à 98% par l'État congolais. Pour cette structure, cet acte révèle d'un détournement et constitue une atteinte grave aux droits des bénéficiaires, qui sont particulièrement les élèves de la chefferie de Buhavu. La Lucha Kalehi plaide pour l'ouverture d'une enquête et que les responsables soient arrêtés et déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Ces mouvements citoyens demandent également à l'autorité provinciale de prendre des mesures urgentes afin d'assurer l'achèvement des travaux, des constructions de la dite école pour l'intérêt communautaire. Contacté à ces sujets, Mapendano Wiganda Désiré rejette en bloc toutes ces accusations. Il ajoute qu'un avenant au contrat de 33 000 $ américains avait même été signé par les gouverneurs de l'époque pour assurer les travaux de finissage, mais les fonds n'ont jamais été libérés. Wiganda Désiré rassure qu'actuellement les travaux se poursuivent sur fonds propres de son organisation. Pour lui, il ne reste que les pavements et la fixation des fenêtres avant la remise de l'ouvrage, d'où l'appel à la population de rester calme et ne pas céder au chantage.
Les acteurs sociaux et services étatiques de Kamanyola dans le territoire de Walungu saluent la diminution des conflits dans le secteur foncier depuis un certain temps. Ceci grâce à l'implication des uns des autres, plus particulièrement les médias. Tout est parti d'un débat public organisé par Radio Mandela au mois d'août dernier et auquel étaient associées toutes les parties prenantes. Depuis lors, des sensibilisations se sont intensifiées, ce qui a abouti à cette réduction. De Kamanyola, notre permanent, Wendo Joé nous fait les points.
Pour ces habitants de Kamanyola, en territoire de Walungu, les conflits fonciers ont baissé depuis ces derniers trimestres suite à l'implication manifeste des acteurs de la société civile et surtout les sensibilisations faites aux médias. L'ingénieur Balungu Matenga, leader local à Kamanyola, s'exprime.
Il y a usurpation du pouvoir dans le sens que un individu XY peut le matin dire non, voilà, moi je peux tracer l'avenir et ne veut pas associer alors les services concernés. C'est ce qui crée directement une cacophonie et un conflit. Notre implication pour mettre fin à tout ça, c'est juste la mobilisation, la sensibilisation d'abord de la population. Est-ce que vous respectez la cartographie pour que demain, une fois votre immeuble déjà érigé, ne soit pas démoli?
Saluons l'implication de Radio Mandeleu pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale. Balibuno Nabururu, chef de secteur de l'urbanisme à Kamanyola, plaide pour la multiplication des séances de sensibilisation à travers les médias.
Les médias nous ont aidés car la Radio Mandeleu était ici pour la sensibilisation dans les marchés publics de Kamanyola. Toutes les couches étaient invitées et nous avons sensibilisé la population parce qu'avant de construire, il faut aller au service de l'urbanisme pour aller demander le permis de construire. Il faut qu'on fasse une descente au terrain. Donc c'est la population qui continuait à nous mettre dans des erreurs, sans même consulter les services habilités, sans même consulter les voisins. J'allais recommander la Radio Mandeleu de continuer pour nous assister à la sensibilisation.
À en quoi notre source, beaucoup reste à faire pour résoudre sensiblement les problèmes liés aux fonciers dans cette entité en pleine émergence. De Kamanyola, Wendo Joé pour la Radio Mandeleu.
Et une délégation a été dépêchée par Kinshasa pour trouver des solutions adéquates au conflit foncier au sud de Kivu. Cette délégation, conduite par le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mugangu Kulimushi, accompagné de M. Kilangalanga, conseiller en matière foncière de la ministre nationale, et de Carlos Banza, conseiller juridique, aussitôt arrivé à Bukavu mercredi dernier, est allé directement présenter les civilités au vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano. Par après, la délégation a été reçue hier jeudi par le ministre provincial des affaires foncières, Georges Kibonge Babingwa, à son cabinet de travail. Autour de leurs échanges, plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation des affaires foncières au sud Kivu en général et la situation de la circonscription foncière de Bukavu 1 où règne une grogne des agents en particulier afin d'envisager comment remettre de l'ordre dans ces secteurs. Ces délégations, dont la mission Sud Kivu des 48 heures a présenté au ministre Georges Kibong et Babingwa le plan de sortie de crise de la ministre nationale aux affaires foncières Akasia Bandubola, qui dans sa vision de remettre de l'ordre dans l'administration foncière pense qu'il faut nommer au poste de conservateur des titres immobiliers les non-originaires afin de diminuer les conflits liés à la course au pouvoir, source d'instabilité et de dysfonctionnement de l'administration foncière au Sud Kivu. Le ministre Georges Kibongé, tout en demandant à la délégation de prendre souvent en compte des propositions formulées par les autorités provinciales pour plus de cohérence dans la prise des décisions, a proposé des pistes de solutions pour éradiquer définitivement les problèmes récurrents dans les secteurs fonciers en province, signalant qu'une séance de travail en aparté a été organisée entre les autorités provinciales et la délégation pour harmoniser les points des vues. Nous changeons de chapitre à présent. Plusieurs dérapages sont signalés dans l'opération de contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, dont la deuxième vague a débuté depuis la semaine dernière à Bukavu. Selon le comité intersyndical provincial des agents de l'administration publique, CIPA, pense que certains agents admis à la retraite sont invités à renoncer à leur numéro matricule au motif qu'ils sont utilisés par d'autres agents dans d'autres provinces ou entités. La crainte est de voir ces agents qui doivent être admis à la retraite perdre leur droit des jures de leur décompte final qui s'évalue à plus de 8 000 à 10 000 dollars américains selon le grade de chacun. Par ailleurs, d'autres acteurs pensent que le fait de dire que les numéros matriqués des agents admissibles à la retraite seraient utilisés par d'autres personnes dans les provinces voisines ou à Kinshasa serait une façon pour la commission de vouloir détourner les droits liés à cette retraite. Le président du CIPAP, Adam Sbarouchi, rappelle que ces agents n'ont pas la compétence d'octroyer un numéro matricule qui est une attribution exclusive du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Au-delà de ça, le président du CIPAP précise les traitements inhumains et dégradants que subissent les agents qui participent à cette opération et l'exigence du paiement pour l'obtention de la fiche de contrôle dite frappe qui est pourtant gratuite. On l'écoute.
Il y a de ces agents qui constatent que leurs numéros sont utilisés par deux ou plusieurs personnes. Donc il y a des doublons dans beaucoup de numéros matricules et ils ont utilisé, ça fait plus même de 30 ans, 25 ans. Or ces numéros sont éligibles déjà à la quatrième vague de retraite. Quand il y a un numéro qu'on a utilisé pendant plus de 30 ans et aujourd'hui on vous dit que votre numéro est utilisé par deux ou trois personnes et puis on commence à vous dire que non, vous allez prendre un nouveau numéro. Or l'équipe qui est ici, ils n'ont pas cette compétence de donner un numéro matricule. Le numéro matricule est donné par le seul ministre de la fonction publique au niveau national. Ça passe pour une magouille parce que comment on peut vous proposer un numéro matricule? On vous dit qu'on va laisser votre numéro, mais on va vous donner un nouveau numéro. Les autres failles, ce sont des traitements inhumains. Bon, à part ça, le monnayage, il y a des monnayages qui se font là-bas.
Contacter le chef de division de la fonction publique au Sud Kivu, Patrick Ntonga, promet de s'exprimer à ces sujets incessamment. Et le ministre provincial en charge de l'entrepreneuriat, Bernard Mouido, demande aux jeunes entrepreneurs de se regrouper en réseau afin qu'ils soient accompagnés par le gouvernement provincial à travers différents secteurs. Appel lancé hier jeudi lors d'une descente effectuée dans la commune de Baguira dans le but de s'imprégner des différents problèmes auxquels font face ces jeunes. Explication Alain Kabika.
Sur place, il a été constaté qu'ils sont parfois victimes de tracasseries de la part de certains services étatiques, une situation qui ne leur permet pas d'émerger. Après s'être imprégné de cette situation, le ministre demande à ces jeunes et d'autres désœuvrés de se regrouper en réseau pour permettre au gouvernement de réfléchir sur des exonérations et l'accompagnement en leur faveur. Ayant facilité que ces plaidoyers des jeunes parviennent au ministre, la députée provinciale Béatrice Kinjamwindanga indique que c'est à l'occasion de ses récentes vacances parlementaires qu'elle a pu recueillir les attentes de ces jeunes à travers les trois communes de la ville de Bukavu. La députée provinciale Béatrice Kinjamwindanga.
Lors des vacances parlementaires, j'avais sillonné les coins et les coins de la ville de Bukavu et j'avais recueilli autant de désiderata de la population, surtout la jeunesse. Ils avaient présenté multiples préoccupations. Ils avaient montré combien le chômage est accru chez les jeunes. Ils avaient montré s'ils veulent entreprendre, mais les tracasseries des services de l'État ne les laissent pas entreprendre. Je suis parti voir à mon niveau le ministre provincial est en charge l'entrepreneuriat pour voir comment il peut alléger les difficultés auxquelles fait face ces jeunes. Ainsi, le ministre a été prompt. Je le remercie pour ça. Jusque-là, au niveau de l'Assemblée provinciale, on n'a pas encore analysé ce rapport. Je me suis dit qu'il fallait rencontrer le ministre. Pour le ministre, il a montré qu'il est prêt à les accompagner. Il leur a proposé de se regrouper en réseautage et voir combien il peut donner une suite de réponses.
En attendant l'exploitation de son rapport des vacances parlementaires à l'hémicycle provincial, Kinja Mwindanga veut voir les jeunes de Bukavu être plus créateurs et non demandeurs d'emploi.
Et avec vous, Omar Moudekerez a présenté les principaux défis et obstacles qui ont impacté négativement la mise en œuvre du projet Accès à la justice, notamment la matérialisation des activités qui visent à réduire la souffrance de la population dans le domaine de la justice dans la zone frontière. C'est l'objectif de la réunion organisée à Bukavu depuis hier jeudi par le comité de pilotage national du dit projet pour la RDC en cette année 2024.
Pour John Kazembe, chargé principal du projet Accès à la justice en Swahili ou Wakibila Mipaka, ces assises vont permettre de présenter les principaux défis et obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre et qui ont eu un impact négatif sur la matérialisation des activités dans le domaine de la justice dans la zone frontière. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui a présidé la réunion du pilotage du projet depuis 2023, explique que dans un contexte particulier de pauvreté, crise de confiance et d'insécurité, plusieurs victimes ne savaient pas sur quelle porte frapper pour recouvrer leurs droits à la justice.
L'organisation des audiences foraines, des fois ça pose problème parce qu'il y a beaucoup d'exigences par rapport à notre moyen financier. Ça fait que parfois l'exécutif n'a pas beaucoup de possibilités. Si au niveau du projet, on peut nous donner aussi les facilitations d'organiser les audiences foraines, ça pourrait encore être plus mieux.
Désormais président du comité de pilotage du projet, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud-Kivu, Jean-Jacques Elakano, a indiqué que dans le secteur de la justice, les défis sont encore énormes, mais le gouvernement, grâce à ses projets, fera tout pour que la justice soit accessible à tous. Jean-Jacques Elakano indique que l'urgence à présent est de garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité par les recours aux cliniques juridiques et aux modes alternatifs de résolution des conflits, en renforçant même les capacités des acteurs de justice de manière continue et adaptée à leurs besoins.
Les défis sont énormes. Prenez la ville comme celle d'Uvira, où il y a carence de magistrats. Ça fait à peu près une année que les procès ne se tiennent pas. Nous, comme autorité provinciale, nous allons mener un plaidoyer et amener les dirigeants au niveau national à prendre des décisions salvatrices au bénéfice de notre peuple.
De son côté, les représentants des élus de la ville de Bukavu dans ce projet, Jackson Kalimba, indique que sa mise en œuvre devrait être effective en limitant le nombre des cas de justice populaire dans les régions où il sera implémenté et même réduire les distances entre les maisons de justice et les justiciables. Cette activité qui se clôture ce vendredi 29 novembre connaît la participation des autorités, des représentants de l'ambassade des Royaumes des Pays-Bas, les autorités judiciaires et administratives provinciales et bien d'autres. Précisons que le projet amélioration de l'accès à la justice pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs est exécuté par le consortium Alerte Internationale, IPC Paul Institute, et mis en œuvre par le ministère du Commerce Extérieur et de la Coopération au développement du Royaume des Pays-Bas.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
6h37 minutes, nous parlons sport à présent. Les Léopards Handball Dames de la RDC se sont inclinés 23-25 devant les Lions Indomptables du Cameroun en match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la compétition. Les forces congolaises n'ont pas très bien géré les 10 dernières minutes de la deuxième période, bien qu'elles avaient très bien entamé cette mi-temps en menant 2 buts, rajoutant un but à l'avantage qu'elles avaient à la pause de 13-12. Elles n'ont pas su trouver de solution pour percer la défense adverse qui s'est bien regroupée et qui a commencé à attaquer quand il fallait pour passer devant au marquoir. Les Congolaises se mettent déjà sous pression après cette défaite et sont obligées maintenant de remporter leurs 2 prochains matchs, en commençant par celui de ce samedi 30 novembre face aux Tunisiennes, avant d'enchaîner le dimanche face aux Guinéennes. Surtout qu'il ne faut pas compter sur le dernier match du groupe le lundi 2 décembre face aux Angolaises. Le reste des résultats de la deuxième journée, le Kenya a perdu devant le Congo-Brazzaville 20-37. Score de parité entre la Tunisie et la Guinée, 28-28. L'Angola a battu l'Ouganda, 46-11. Le Sénégal s'est imposé devant le Cap-Vert sur le score de 37-22. Et l'Égypte a eu raison de l'Algérie sur la note de 28-19. Au niveau local, après avoir terminé première de la phase aller dans le cercle de football de Kabaré, l'équipe du FC Lumière de Tchibingu joue en amical à Nyangezi contre Banyango, aussi premier du cercle de Nyangezi. Le match est prévu ce vendredi 29 novembre 2024, au coup d'envoi à partir de 14h30. Le match se jouera donc au terrain de l'Institut Ouesa, nous signale donc Jacques Chirimwami, qui est président du FC Lumière de Tchibingu.
Radio Maïndéléo, le magazine du jour, une analyse de votre rédaction. Notre information pour votre reconnaissance. Ensemble pour le développement.
La page magazine à présent, 25 boursiers congolais ont obtenu leur diplôme de fin d'études à l'Académie internationale de management Excellentia à Arena en France. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a parrainé les études de récipiendaires, signalant que les boursiers congolais ont suivi la formation en coordination des projets alternatives solidaires grâce à l'alliance Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le groupe de l'Inde. Commentaire dans cette page magazine signé Eddy Tchiala.
Fière allure, drapeau à la main, ce jeune étudiant brandit noblement son identité congolaise au moment de recevoir son diplôme en coordination des projets alternatifs et solidaires. Lui, comme ses 25 camarades boursiers congolais de l'Académie internationale de management Excellentia, ont en présence de leurs amis et familles franchi ce jour à Rennes en France une étape décisive de leur parcours. Un rêve rendu possible grâce à l'alliance entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le groupe de l'Inde, qui se positionne comme un modèle d'excellence académique et d'innovation éducative en Afrique. La cérémonie a été marquée par la présence de la distinguée première dame qui a eu l'honneur de parrainer cette promotion qui porte d'ailleurs son nom. Le discours inspirant de Denise Nyakeru Tshisekedi a résonné auprès de nouveaux diplômés. La distinguée première dame les a encouragés à poursuivre leurs ambitions avec passion et surtout à jouer pleinement leur partition dans le développement de la République démocratique du Congo.
Vous êtes désormais les bâtisseurs de notre avenir commun, porteurs d'une responsabilité immense mais noble, celle de transformer, d'innover et de contribuer à créer un monde meilleur. Votre vocation désormais est claire. Devenez des ambassadeurs de l'excellence. Dans tout ce que vous entreprendrez, c'est cette vocation qui guidera vos pas et fera de vous des agents de transformation pour nos communautés et pour le monde.
Grâce au programme Excellentia, ces jeunes Congolais ont entamé leur formation par deux années exigeantes en ligne depuis Kinshasa, avant de s'envoler pour la France, où ils ont bénéficié d'une immersion académique de haut niveau.
Le partenaire avec lequel nous avions signé un contrat il y a de cela 3 ans maintenant, et ce projet consistait à avoir une formation, une promotion d'étudiants qui allaient étudier à notre académie, ce que nous, notre Académie internationale de management Excellentia qui est basée à Kinshasa, et il ferait 2 années à Kinshasa, 1 année en France, pour finir le premier cycle, le cycle des licences. Et donc, ils ont fini ce parcours.
D'un ton de gratitude à la première dame, ces boursiers ont désormais une vision plus claire des projets intégrateurs qu'ils portent.
Ça, vraiment, c'est une grande joie. Et ça sera plus particulièrement joie quand je saurai transformer maintenant toute cette compétence que j'ai acquérée à l'école 3 ans en action visible et palpable dès que je serai au pays. Et ça sera profitable à tout le monde.
Outre les mérites individuels, ces exploits académiques sont une preuve indéfectible de l'engagement de la distinguée première dame par la fondation qui porte son nom à promouvoir l'excellence et à soutenir la jeunesse congolaise dans l'optique d'assurer le développement de la RDC par ses propres fils.
<t'en>
6h43 minutes par ici pour enfants, ce radio journal. Alain Zara a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez une excellente journée en compagnie de Radio Mandela, surtout bon début de week-end à vous tous. Au revoir.